au cinéma ce soir, je t'emmène.
Oh, ça, je peux pas.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc.
On pourrait foutre le feu à la forêt pour les obliger à sortir.
C'est pour le cinéma ou la télé ?
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter Radio D'ici sur le 106.6 à Annonay, 105.7 à Saint-Julien-Molin-Molette et 97 aux alentours de Burdignes. Alors, nous sommes en plein festival du premier film à Annonay. C'est TAL, le festival international du premier film. Et aujourd'hui, au micro de Radio D'ici, on a la chance de recevoir l'équipe du film La dernière vie de Simon. Donc, on reçoit Sabrina Beccarine. Bonjour.
Bonjour.
Qui a co-réalisé donc avec Léo Carman,
co-scénarisé.
Alors, on se permet, on a co-écrit le film, mais je l'ai réalisé tout seul.
Oui, pardon, co-scénarisé, tout à fait. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, c'est bien de dire bonjour à nos auditeurs auditrices,
bah oui.
Qu'on se salue. Et donc on a un des comédiens principaux, donc Martin Carman.
Bonjour.
Bonjour. Alors bienvenue à toute l'équipe. Voilà, vous êtes présents sur le festival du premier film pour parler de votre film, présenter votre film. Il y a même une scolaire qui se déroule pendant que nous enregistrons cette émission, mais pas pendant que vous l'écoutez. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, pour nos auditeurs, auditrices, nous raconter rapidement quelle est l'histoire de ce film, La dernière vie de Simon ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est l'histoire de Simon, donc, comme vous vous en doutez. Un petit garçon orphelin de 8 ans qui rêve d'avoir une famille. Et Simon a une particularité, il a un pouvoir magique. Quand il a touché quelqu'un, il est capable de prendre son apparence. Voilà, il a le pouvoir de changer d'apparence. Et je n'en dirai pas plus parce que sinon ça en raconte trop. Et je pense que c'est un film où il faut se laisser surprendre.
Il faut aller voir La dernière vie de Simon, donc jetez-vous sur le programme et regardez quand est-ce que vous pouvez encore aller voir ce film. Et puis surtout, il est sorti en salle le 5 février et donc vous pourrez le voir dans tous les bons cinémas de France et de Navarre. Léo, comment elle est venue cette idée ? J'en ai lu des choses, mais j'ai envie que vous racontiez à nos auditeurs, auditrices, comment l'idée est née.
Avec Sabrina, on se connaît maintenant depuis 10 ans et on s'est rencontrés sur la même envie de cinéma, en fait, c'est-à-dire le cinéma avec lequel on a grandi tous les deux, le cinéma des années 90 américains, donc le cinéma de Steven Spielberg, de Robert Zemeckis, de James Cameron, voilà, du cinéma qui nous fait rêver pendant 2 heures, qui raconte pas l'histoire de notre voisin de siège, mais qui nous fait voyager vraiment dans soit dans des mondes imaginaires, soit dans notre monde, mais un peu différemment, et qui nous fait vivre plein d'émotions différentes, quoi. On passe par le rire, les larmes, l'amour, le suspense, et les émotions de ventre, vraiment. Et puis quand on sort de la salle, on repasse dans la tête, et puis on réalise que le film nous parle de quelque chose de notre vie, voilà. Et ce type de cinéma-là, on l'adore, et c'est avec Sabrina, c'est ce cinéma qui nous a donné envie de faire du cinéma, en fait. Et donc quand on s'est mis à chercher une idée ensemble pour écrire un film, il était hors de question de faire autre chose que ce type de cinéma. Et donc on a cherché une idée qui puisse se faire en premier film et en France. Et de là est née cette idée, voilà, de personnage qui a le pouvoir de prendre l'apparence de n'importe quelle personne qu'il a déjà touchée. Et on s'est dit ça va pas être trop cher, c'est juste plusieurs acteurs qui ont joué le même rôle. Et bon, après c'est un peu changé quand on a écrit, mais voilà, et c'est de là que c'est parti en tout cas.
Et alors, j'ai lu quelque part que vous avez écrit ce scénario en 7 ans, à peu près, c'est ça ?
À peu près, oui, c'est ça.
Ou j'ai lu une erreur ?
Non, c'est ça.
C'est l'âge de raison, on dit souvent, 7 ans ?
Bah, c'est vrai, c'est ouais. Peut-être pour ça qu'il nous a fallu tout ce temps, mais ces 7 années ont été surtout ponctuées de refus, en fait, et c'est ce qui fait qu'on a pris plus de temps que ce qu'on avait imaginé pour faire ce film. Et on a mis 5 ans à trouver un producteur, en fait, et ensuite 2 ans à trouver un distributeur et tous les financements.
C'est vrai qu'un film fantastique français, hop, comme ça, on parierait pas dessus.
Bah, ça passe pas, en fait, tout ouais. Simplement. C'est-à-dire qu'on nous dit, au-delà même du scénario, on nous dit on fait pas ça en France, c'est trop ambitieux, c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est pour les Américains, c'est pas nous, c'est les Américains qui le font. Donc on a pas mal galéré à trouver la bonne personne. Après, il en faut qu'une, hein. Enfin, il faut juste un producteur, un distributeur, Mais il y en avait beaucoup, et beaucoup nous ont dit non, en fait. Donc c'était un peu dur, en tout cas à l'instant T, quand on vivait le truc. Après, aujourd'hui, avec le recul, on est content, en fait, d'avoir vécu tout ça, et parce que ça nous a permis d'être très exigeants aussi par rapport au scénario.
Mais ce qui était difficile, c'est que les refus ne concernaient pas forcément la qualité du projet. C'était vraiment des refus économiques. C'est de se dire non, ça n'existe pas dans le cinéma français, ça n'a pas sa place, quoi.
Mais c'est vrai que c'est pas dans la culture. J'étais en train de me dire que la littérature est souvent... la source de plein de films et, inspirantes, en tout cas du cinéma, et on n'a pas de culture d'écrit français en science-fiction, très très peu.
Bah quand même, on est quand même le pays de Jules Verne, on est en cinéma, je trouve que quand même à l'origine du cinéma, c'est quand même Méliès, c'est quand même Cocteau. Enfin, je trouve que si on est quand même le pays de Fantomas. Enfin, je sais pas, on a été un pays qui était très ouvert à l'imaginaire.
Et il y a eu un moment. On a oublié nos sources.
Je pense qu'on a oublié ces sources-là et que je pense que le tournant a été avec la nouvelle vague où d'un coup on est sorti des studios, on a pris les caméras pour aller filmer dehors, filmer la vie, filmer le et c'était génial, ça a été une libération extraordinaire pour le cinéma et c'est une période de cinéma passionnante, mais qui en voulant révolutionner le médium a fermé la porte en fait à beaucoup de genres et qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui, quoi.
Ben bravo, en tout cas vous avez retrouvé la route et c'est plutôt réussi. C'est mon avis personnel. Martin, on vous a pas encore entendu.
Non, c'est vrai.
Alors, bonjour.
Bonjour, bonjour. J'ai dit bonjour au début de l'émission.
C'est vrai, c'est vrai. Mais on a envie de donner la chance à nos auditeurs, auditrices d'entendre votre voix parce que vous avez une voix assez radiophonique.
Merci.
Qu'est-ce que...
En plus, j'ai toujours rêvé de faire de la radio. Donc si vous avez une place pour
le...
ouais, si vous avez une place pour la radio de Molamolette, moi je suis grave chaud. J'ai quelques dispos.
Vous savez pas si bien dire, on en parlera après l'émission.
Trop bien.
On me dit non.
Non, il y a plus de place, arrête, pas ce mec là en plus.
J'aimerais savoir quelle a été votre première réaction à la lecture du scénario.
Alors moi, une histoire par rapport à Sim, elle est donc je suis le petit frère de Léo. Je suis acteur, hein, je fais beaucoup de théâtre aussi, j'ai fait pas mal de télé. C'est mon premier long métrage de cinéma. Moi, ce scénario, je l'ai dévoré. Enfin, et en plus, textuellement, il est assez bien écrit. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se faire le film dans sa tête quand on lit. Il y a des scénarios, quand on les lit, c'est un peu descriptif et on voit pas vraiment. Les influences et tout ça, moi j'ai vu le film quand je l'ai lu, vraiment. Après, je connais aussi les influences de Léo, je connais son cinéma, donc j'imaginais déjà qu'il y ait quelque chose. Après, moi ça a été un peu compliqué, mon histoire avec compliqué, c'est-à-dire que je me suis dit est-ce que vraiment je passe le casting? J'avais pas envie de le passer au début, Léo a insisté, parce que je me suis dit dans les deux cas, c'est, s'il me prend, c'est compliqué, et s'il me prend pas, c'est compliqué. Parce que je me suis dit, s'il me prend, est-ce qu'il va se dire, est-ce que je suis complètement objectif, moi, ma légitimité sur ce projet, c'est mon frère et tout ça. Et s'il me prend pas, pourquoi tu me prends pas et tu me fais passer alors que je suis ton frère, alors qu'il me connaît, enfin, je veux dire. Donc au début, j'avais pas envie que ça complique les rapports familiaux. Et mais finalement, il a insisté, finalement, je l'ai passé. Et nous, notre rapport avec Léo... Il a toujours été celui-là, on a commencé à faire des films ensemble, je devais être en sixième, il était en quatrième, il a eu une DV pour Noël, il a commencé à me filmer, puis il a toujours voulu être réalisateur, moi acteur, donc on a ce rapport-là, et c'était comme une continuité logique, et par rapport à la légitimité, ce qui est chouette, c'est qu'il a montré les essais aux producteurs, à Sabrina, à tout ça, qui ont aussi validé son choix, quoi. Mais ouais, la lecture du scénario, je trouve ça incroyable d'avoir pu faire un film comme celui-là, quoi. Alors déjà que c'est mon premier film de cinéma, et en plus de ça, c'est un film aussi particulier, original, dans le paysage du cinéma français, quoi.
Oui, c'est certain. Et puis, c'est une aubaine, cette complicité, j'ai envie de dire, plutôt pour nous, spectateurs, spectatrices. Enfin, voilà, y a une complicité entre la caméra et votre jeu d'acteur. Ça se sent, je trouve, énormément.
Ah, merci.
Mais je ne savais pas que vous étiez le frère de Léo quand j'ai regardé le film. Donc voilà, ça n'a pas influencé. Je l'ai appris après.
D'accord.
En lisant. Donc voilà, j'ai trouvé quand même qu'il y avait vraiment un beau, une belle relation, une douceur aussi. Alors peut-être que c'est le personnage de Simon qui le crée. Moi là, tout de suite, j'ai envie de me dire qu'il y a un lien avec le frangin qui est derrière, quoi. Et puis cette histoire commune, hein, parce que quand...
Bah, en tous les cas, de toute façon, frère ou non, je trouve que Martin est un excellent comédien et donc c'est extrêmement inspirant. Donc c'est un plaisir de le filmer, quoi. Donc il trouve que en plus de ça, effectivement, on se connaît depuis longtemps. Mais ce qui était, je trouve, génial sur ce tournage, c'est que on avait un rapport extrêmement professionnel et que je n'étais ému sur le plateau que par son talent et pas du tout parce que c'était mon frère, quoi. C'était vraiment par le talent de comédien qu'il avait, quoi.
La relation avec Camille Clarisse et Benjamin Voisin, comment l'équipe est née assez rapidement, il a fallu se chercher un peu. Vous avez passé combien de temps à tourner ce film?
Alors ça a été 2 mois, donc c'était mai-juin 2018. Alors il se trouve que le hasard fait que Camille Clarisse, je la connais depuis 10 ans, parce qu'on a fait la même école de théâtre quand on avait 18 ans, on était dans la même promotion. L'école Claude Mathieu dans le 18e, d'ailleurs, que je conseille à tous les jeunes acteurs qui veulent commencer, qui est une super école.
Dans le 18e arrondissement de Paris.
Ouais, 18e arrondissement de Paris.
Il n'y a qu'à Paris qu'il y a 18 arrondissements.
Ouais. Ah, c'est vrai. Il y en a même plus, il y en a même 20. Non, plus.
Non, il y en a 20 maintenant.
20 maintenant. Ouais, ouais. Du coup, c'était une amie depuis longtemps, donc du coup, oui, ça s'est fait. Et je ne suis même pas sûr que c'est un rapport avec le fait que Léo l'ait casté, parce que si, il savait que je la connaissais, mais il ne l'avait pas vraiment vu jouer, je crois, à Claude Mathieu. Il l'a rencontré en casting, quoi. Et c'est une super actrice, et c'était déjà une super amie. Donc c'était trop bien de se retrouver avec elle. Et Benjamin, ouais, non, on s'est rencontrés sur le tournage, mais on s'est rencontrés en amont. Avant de partir sur le tournage, parce qu'on a vachement vu qu'on joue le même personnage, on s'est retrouvé dans des salles de théâtre pour travailler vraiment ensemble le rôle, quoi. Sa façon de marcher, sa façon de regarder, sa façon de recevoir, parce que c'est un personnage qui est vachement en réception. Et du coup, en fait, on s'est pas mal vu avant parce que on joue le même personnage dans des apparences différentes, mais on ne joue pas du tout les mêmes situations. Mais il fallait quand même qu'il y ait une espèce de passage de relais comme ça. Et donc il fallait absolument qu'on soit soudés et qu'on soit ensemble pour raconter le même personnage et la même histoire. Et du coup, ça s'est fait très bien et on est devenus amis maintenant. Ouais. Donc en fait, non, il y avait une super ambiance, mais pas que par rapport aux comédiens, par rapport à tout le monde. C'était une atmosphère de plateau assez incroyable. La moyenne d'âge sur le tournage était 28 ans. On était tous là pour raconter cette histoire exceptionnelle et tout le monde avait envie de la raconter. Il y avait une énergie de dingue, quoi.
Du coup, je peux savoir avec quel... Enfin, nous, est-ce que nous, auditeurs, auditrices de Radio D'ici et moi-même présente, nous pouvons savoir quel est le budget de ce film à peu près?
Le film a coûté 1 950 000 euros.
Ce qui est très raisonnable pour un film.
Ce qui est assez, en fait, peu. Ce qui est bien pour un premier film. Mais la moyenne des films en France, la moyenne des budgets des films, c'est entre 5 et 6 millions.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire à nos auditeurs auditrices. Ne vous effarez pas sur votre siège auto, là, restez tranquille. Si on veut payer les gens pour leur travail, et un film, ça se fait avec une grosse équipe. Voilà. Il y a des gens à la lumière, il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui vont faire du montage.
Et ça me permet de remercier à nouveau cette équipe formidable qui a accepté donc de travailler à moins 50% de salaire pour pouvoir rentrer dans ce budget-là et pouvoir avoir l'ambition visuelle et sonore que demandait cette histoire.
Alors j'imagine que quand vous allez présenter ce film à des scolaires, on vous pose beaucoup la question des effets spéciaux, ou pas tant que ça?
Si, si, ça arrive assez souvent. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que les enfants du film, c'était ce qui les excitait au tout départ, hein. Ils ont tous dit on est trop contents de faire ce film parce qu'il y a des effets spéciaux. Alors après, quand ils ont découvert le travail que ça demandait sur le plateau, ils étaient moins excités, parce que bon, c'est quand même beaucoup de temps d'attente, des gommettes sur le visage, des écrans verts, ne pas bouger, enfin en fait c'est pas extrêmement enthousiasmant
pas
à faire.
Joli.
Après c'est rigolo à voir, mais ça demande quand même pas mal de discipline au départ. Et oui, on nous pose souvent la question de comment ils sont faits, oui. Mais parce que c'est les effets spéciaux on a utilisé les effets spéciaux de manière extrêmement dramaturgique, en fait. C'est pas du tout des effets spectaculaires, c'est des effets qui, en tout cas c'était mon souhait, qui restent à la hauteur du personnage et à la hauteur de l'enjeu dramatique de la scène. Ce qui m'intéressait plus, c'était l'émotion avant la transformation, l'émotion après, et de garder cette continuité émotionnelle-là, plutôt que d'être presque dérangé, presque distrait par un effet trop magique.
On va y revenir justement sur un peu l'intention du film et le fond. Moi, ça m'intéresse de vous interroger là-dessus, tous les trois. Je trouvais intéressant effectivement de nommer les jeunes acteurs, actrices, donc qui jouent le rôle de Madeleine. C'est Vicky Andren.
Oui.
Le rôle de Simon enfant, donc c'est Albert
Geffrier.
Ouais. Et dans le rôle de Thomas, donc c'est Simon, c'est drôle.
Oui, c'est pratique sur le tournage.
Simon Sucet. Qui sont très chouettes à l'écran. Il y a aussi Julie Anne Roth qui joue le rôle d'Agnès, qui est la maman, et Nicolas Vanceschi. Qui joue le rôle de Jacques, le papa. Ça fait une équipe sympa, ça fait une jolie famille. C'est vrai qu'on démarre dans ce film, je trouve, dans une ambiance comme ça un peu... On sent qu'on est sur un film de divertissement, voilà, un film qui vous veut du bien un petit peu, qui veut vous relaxer. Et pourtant, je trouve qu'à côté du scénario qui, comme ça, déroule un film fantastique... sur lequel, c'est sûr, on est un peu en interrogation. Qu'est-ce qui va se passer? Bien qu'il y a des choses qu'on attend, c'est-à-dire quand ils courent tous les deux, qu'il y en a un qui tombe, on s'attend à ce qu'il se passe ce qui se passe. Mais je crois que c'est pas forcément... Enfin, voilà, qu'il n'y a pas d'intrigue à cet endroit-là, je crois. Et c'est vrai que je trouve que c'est un film qui est quand même très fort sur la qualité émotionnelle de ces acteurs-actrices. C'est pour ça que je disais, on va y revenir. Est-ce que c'est ça qui était touchant dans la lecture du scénario? Est-ce que c'est ça qui donne... comment ça place l'acteur dans son rôle, dans un film fantastique? C'est-à-dire qu'on s'attendrait à ce que ce soit toujours dans l'action qu'on joue. Voilà, comme on joue une scène, mais il y a énormément d'intention dans ce film. Et je trouve que c'est saisissable. Enfin, on le voit dans le rôle d'acteur.
Déjà, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. moi, ce qui me touche énormément, je peux parler de Simon, c'est que son pouvoir, c'est pas un super-héros, malgré le fait qu'il ait un pouvoir. Je pense que c'est ça aussi qui rajoute ce côté intime du film. Malgré sa dimension fantastique, où on pourrait se dire, t'as un pouvoir, la plupart des films fantastiques, où il y a des gens qui ont des pouvoirs, ils le revendiquent, leur pouvoir, c'est un truc qui les renforce. Lui, c'est plutôt un truc qui l'affaiblit. Et je trouve son pouvoir est plus une métaphore par rapport à la recherche d'identité qu'un super pouvoir, quoi. Et du coup, c'est un personnage qui fait un choix, mais on n'a pas envie non plus de spoiler, mais qui préfère être aimé pour ce qu'il n'est pas que pas être aimé du tout. Par exemple, c'est un personnage qui est en quête d'amour permanente. C'est un personnage qui ne sait pas qui il est, donc il doit chercher sa place et qui base un peu son existence sur un mensonge, mais en même temps, son existence, il n'a pas de racines. Donc de base, un mensonge. Les influences, quand il parle des films de Zemeckis, tout ça, moi, j'ai vachement pensé aussi à Forrest Gump, à Edouard aux mains d'argent... ces personnages qui en fait sont, il se trouve que c'est les personnages principaux du film, mais ils sont pas en action, ils subissent un peu l'existence en fait de ce qu'il y a autour, et il a une grandeur qui est là parce que je pense vu que c'est un orphelin qui n'a pas d'attache, en fait ça reste un enfant, et ça reste un enfant tout au long de son adolescence en fait. Donc on a vachement, avec Benjamin un voisin, on a vachement aussi observé Albert Geffrier qui joue Simon Petit, qui d'ailleurs a une maturité assez impressionnante. Il y a une anecdote que j'aime bien, c'est qu'il est venu s'asseoir un jour à côté de moi entre deux prises. Donc il a 10 ans, hein. Et il me dit « De toute façon, moi, ce rôle, c'est simple, c'est espoir et voile de tristesse. » Je lui dis « Albert, t'as 10 ans, tu parles, c'est incroyable ce que tu me racontes. » Il fait « Non, mais ouais, c'est ça, etc. » Puis en plus, je travaille pas beaucoup en ce moment.
Ouais, le métier
non,
difficile.
Non, le métier difficile, c'est ça, a changé par rapport à mon époque. Et en fait, il avait raison. Enfin, c'est complètement ça. C'est ça d'ailleurs qu'il joue quand on le voit jouer. Et c'est sur ça que nous, on a basé la base de notre travail, quoi.
Alors, effectivement, je le lisais notamment en lisant ce que tu as écrit dans le dossier de presse, Sabrina, sur l'écriture du scénario. Et c'est vrai que quand vous en parlez l'un comme l'autre, vous avez circonscrit la narration sur l'adolescence. Est-ce que c'est parce que vous pensez qu'adulte, on sait qui on est et on sait où on va et que les choses sont réglées?
Non, pas du tout. La preuve, ce film. Non, après, adulte, c'est plus... quand on est adulte, on est peut-être plus en quête et en recherche de qui on est, alors que quand on est enfant, on le subit un peu plus, parce qu'on est justement dans la phase de construction, ce que Simon n'a pas eu, en fait. Et c'est en ça que sa vie d'adulte, comme dit très bien Martin, l'enfant est encore très très présent en lui, en fait. Et pour rebondir aussi sur l'émotionnel, Nous, avec Léo, c'est vraiment notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'on cherche l'émotion dans le scénario, mais sans chercher, on se dit pas, il faut qu'on fasse pleurer, il faut qu'on fasse ressentir des choses en poussant les choses, mais vraiment en faisant vivre au spectateur ce que vit le personnage. C'est-à-dire, j'ai entendu une étude il y a pas très longtemps que je trouve hyper intéressante sur les enfants à l'école, qui dit que les enfants retiennent 10% de ce qu'on leur dit et 90% de ce qu'ils expérimentent et de ce qu'ils ressentent. Et je trouve que ça s'applique au scénario, en fait. C'est-à-dire que si on veut faire ressentir des choses très fortes aux spectateurs, il faut leur faire vivre des choses. Et après, c'est eux qui projettent des émotions. C'est-à-dire que c'est pas, on n'impose pas aux spectateurs l'émotion que ressent le personnage. Et ça, je trouve, mais c'est un travail subtil. Hein, c'est important de dire que le scénario, c'est beaucoup de travail aussi. Que c'est pas, il y a un peu le mythe de l'auteur ou du créatif qui regarde par la fenêtre et qui d'un seul coup est
inspiré.
Alors c'est le cas, on est inspiré, mais pour fabriquer derrière un scénario de 100 pages, il faut travailler en fait.
Mm. On préfère parler d'artisan en fait que d'artiste parfois, parce que effectivement il y a cette notion de j'écris sur un coin de table et puis alors que artisan, je trouve, comme dit Sabrina, je trouve ça hyper important de remettre la valeur travail là-dedans et de la valoriser.
Ouais. Je suis d'accord et je dirais même que j'ai lu quelque part encore concernant votre film quelque chose dont j'ai échangé avec Erwan Leduc sur son film Perdrix et qui est toute la construction après la post-production d'un film, la lumière et puis le travail du son dans le film. Parce qu'il y a une image, certes, c'est un travail de vidéaste, mais il y a aussi tout un travail sonore qui vient... voilà, laisser exister une émotion. Pendant que vous disiez, Sabrina, je pensais à ça, ou à la musique qui accompagne l'émotion et qui laisse la place, ou qui dirige un peu aussi, mais en tout cas qui donne du rythme.
Bah, en fait, c'est d'abord la place qu'on laisse au scénario en enlevant au maximum du dialogue. C'est pas un film très bavard, parce qu'on est persuadé avec Sabrina que plus on retire du dialogue, plus on laisse de la place aux spectateurs de s'engouffrer dans les émotions des personnages sans qu'on leur explique ce qu'ils devraient ressentir. Et ensuite, une fois que cette place-là est faite au scénario, c'est la place que les acteurs peuvent prendre.
J'allais dire plus exigeant quand même, du coup, pour l'acteur. C'est exigeant pour l'acteur ou l'actrice de ne pas avoir le texte qui guide et que c'est l'émotion. Donc ça fait un travail conséquent.
Il y a une exigence d'acteur et puis il y a surtout une confiance des acteurs envers moi, en fait. Parce que c'est de dire, je me souviens qu'il y a des fins de scène où je disais à Martin, à Benjamin ou à Camille, gardez l'émotion, même parfois trop longtemps par rapport à ce que dans la vie on ferait. Et c'était à eux de me faire confiance sur, mais vous inquiétez pas, en fait, parce qu'en montage et avec l'émotion qu'on a déjà nous emmagasinée en tant que spectateur depuis X scènes, et puis avec la musique, et puis avec le rythme de montage. En fait, ce temps-là qui vous semble long dans la réalité, dans un temps de cinéma, sera le temps dont on a qui est nécessaire pour nous, spectateurs, pour s'engouffrer avec vous dans l'émotion que vous ressentez, quoi.
Alors, globalement, les retours, comment ça se passe pour l'instant ? Voilà, ce film est fraîchement sorti, même s'il a déjà traversé plusieurs festivals. Hein. Tu me confiais tout à l'heure, je me perds un peu des fois.
Comme on veut.
Vous aviez démarré au mois d'août, c'est ça, hein, à montrer ce film et,
La première projection du film, c'était au Festival d'Angoulême au mois d'août, fin août 2019. Et l'accueil a été incroyable. Et grâce à cet accueil-là, en fait, du coup, on a pu faire à peu près tous les festivals d'automne à travers la France, ce qui était une chance pour nous parce que c'est un film qui ne peut marcher que par le bouche à oreille. Et donc, plus le film est vu et plus le bouche à oreille peut se faire, quoi.
Et les critiques presse, du coup, pour l'instant ?
Sont très, très bonnes. Nous, on est très, très contents des critiques presse. Il y en a toujours qui n'aiment pas, mais heureusement, c'est très sain. Enfin, je trouve. Et non, on est très surpris et très heureux aussi des retours qu'on peut avoir sur, comme dit Léo, de se sentir compris dans le cinéma qu'on a voulu faire et dans le cinéma qu'on rêve de faire et de voir que qu'on est vu et entendu et que c'est aussi un cinéma qui peut manquer aussi à beaucoup de gens en fait qui sont très heureux de le voir revenir sur leurs écrans, donc ça fait très plaisir.
Mais ce qui fait plaisir, c'est les spectateurs effectivement qui viennent nous voir en fin de séance et qui nous disent enfin on voit ça, on a envie de voir ça dans le cinéma français et merci d'avoir osé le faire. Et donc ça, on a juste envie d'enregistrer ces gens-là et puis de passer la cassette à tous les financiers du cinéma qui sont convaincus que le public n'a pas envie de voir ça, quoi.
Vous avez d'autres projets de cet ordre-là qui est dans les placards ou dans les tiroirs ou on même a, un peu plus près.
Ils sont beaucoup plus près. Ils sont tous sur la table. Et on a beaucoup de projets. Ouais. On part du principe. Enfin, c'est notre façon de travailler aussi. Pas juste un principe, mais que c'est très important d'avoir beaucoup de projets pour pouvoir passer de l'un à l'autre, pour pouvoir se reposer de temps en temps sur l'un, pour reprendre un autre. Et aussi parce que ça peut prendre énormément de temps de faire un film. Et si on passe 8 ans sur un scénario qui ne se fait pas et qu'on n'a rien d'autre, mais c'est vertigineux en fait de se dire qu'on a passé 8 ans à travailler sur quelque chose qui ne se fera pas. Donc on a vraiment beaucoup, en effet, beaucoup de projets qui sont peut-être, ils sont différents dans la forme, mais de toute façon, ils nous ressemblent. Enfin, ceux qu'on a en tout cas tous les deux nous ressembleront toujours. Donc je pense qu'on pourra y trouver des similitudes à La dernière vie de Simon tout en les trouvant très différents. Le prochain, par exemple, est un biopic sur la première femme d'Albert Einstein. Donc on pourrait dire c'est complètement différent. Puis finalement, un jour, on s'est dit, mais ça raconte la même chose, alors que ça n'a rien à voir. Mais on va dire, dans les sous-couches, en fait, dans le sous-texte, c'est des... Je pense qu'on aime beaucoup ces personnages un peu solitaires, avec des... Alors, dans La dernière vie de Simon, c'est un pouvoir magique, mais dans Einstein, ben, c'est des magiciens.
C'est des magiciens de la science, quoi.
De la science. Mmh. Et je pense qu'on aime beaucoup le côté un petit peu... unique de ces personnages et solitaires aussi, qui cherchent un peu l'amour à travers leur pouvoir.
Je crois que la position que je préfère en tant que spectateur au cinéma, c'est cette position dans le siège où on a le dos qui se décolle un tout petit peu, puis on a la bouche qui s'ouvre comme ça un tout petit peu, puis on regarde l'écran et on est un peu fasciné par ce qu'on voit. Cette impression-là, je pense que c'est l'émotion que je préfère au cinéma. Et je pense que c'est ça le lien entre tous les films qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que quel qu'en soit le sujet et la forme, on aimerait bien que les spectateurs continuent de se décoller du dos de leur siège.
On cherche toujours, là, même dans une histoire qui pourrait apparaître beaucoup plus réaliste, pardon, donc ce biopic sur la première femme d'Albert Einstein, parce que pour l'anecdote, qui a tout fait avec lui, en fait, ils ont travaillé ensemble.
La femme de l'ombre.
C'est ça. Donc, beaucoup plus réaliste sur le papier. Mais on cherche toujours, en effet, comme dit Léo, à aller chercher un peu la magie, ce qui fait que ça va être un peu plus bigger than life, en fait, un peu plus... que ça va être un spectacle, en fait.
Merci beaucoup de nous confier toutes ces réalités, vos réalités, votre travail au micro de Radio d'ici pour nos chers auditeurs, auditrices. Je vous invite à vous jeter sur un programme quelconque, celui du festival, mais d'autres aussi, pour voir La dernière vie de Simon, qui sortira, j'imagine, en DVD, VOD, tout ça prochainement.
Oui, on ne sait pas encore si ce sera en juin ou en septembre, cette sortie-là.
Voilà, mais ça arrivera.
En tous les cas, c'est en salle en ce moment et on espère le plus longtemps possible.
Voilà, donc il faudra voir ce film. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les encourager à aller voir ce film là tout de suite pendant le festival?
Moi j'ai envie de dire que c'est un film qui va réveiller un peu l'enfant intérieur qu'il y a en nous et où on a beaucoup comment dire, on a vraiment cherché à faire ressortir la magie et le merveilleux et je pense que c'est un film qui fait rêver, qui procure beaucoup d'émotions et on est très fiers de ça.
Et je me suis toujours posé la question de pourquoi c'était si difficile en France de financer des films qui étaient un mélange de, enfin, qui font du mélange de genres, parce que c'est un film qui fait du mélange de genres. On passe du merveilleux au romanesque, on passe même par le thriller, on passe par des tas de d'émotions. Et ça me dépasse un peu. Pourquoi on irait payer une place de cinéma pour en vivre qu'une d'émotions, en disant bon, je vais payer 6 € ou 12 € selon là où je vais au cinéma, et puis je vais faire que rire. Si ça réussit, ou je vais faire que pleurer. Et en fait, voilà, je pense que c'est un film où si vous achetez votre ticket, bah, vous passez par plusieurs émotions. Voilà.
Merci. Martin, tu ajoutes quelque chose?
C'est déjà pas mal. Hein.
Tout est dit.
Les pros de la promo. c'est compliqué de dire pour un film qu'on a fait que c'est un film formidable, mais c'est tellement un film d'équipe que j'ose le dire. Moi, je trouve que c'est un super beau film qui transpire le travail, qui fait rêver. Enfin, il y a toujours, quand on fait les bords plateaux à la fin, il y a toujours des gens qui, où c'est des questions-réponses, donc on échange avec le public. Il y a toujours des personnes qui ne posent pas de questions, qui juste remercient d'avoir vu ça et qui sont encore en train de pleurer à ce moment-là. Et je crois que c'est pour ça qu'on fait du cinéma ici autour de cette table et c'est pour, enfin voilà quoi.
En tout cas, on ne s'ennuie pas une seconde quand on va voir ce film, ça c'est certain. Vous ne vous poserez pas la question de savoir si vous êtes bien assis ou pas bien assis. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à toutes. Merci d'être venus au micro de Radio d'ici.
Merci pour votre accueil.
Ouais. Au revoir. Merci.